RFI, grand reportage.
Sébastien Duhamel.
Le grand reportage aujourd'hui nous emmène en Colombie pour faire un point sur l'exode des Vénézuéliens. Ils sont des milliers à traverser la frontière colombienne chaque jour pour se rendre à pied jusqu'en Équateur ou au Pérou dans l'espoir d'une vie meilleure. Plus de 2 millions de Vénézuéliens ont ainsi quitté leur pays. La Colombie en a reçu plus d'un million. Les grandes villes enregistrent le plus gros de l'afflux comme Bogota, Medellín ou Santa Marta. En novembre, le gouvernement a présenté un document proposant des solutions pour accueillir les migrants. Mais pour le moment, rien de concret. Beaucoup de Vénézuéliens sont en transit et sont complètement livrés à eux-mêmes. Alors une Vénézuélienne a décidé d'ouvrir l'unique refuge officiel pour ces migrants. Notre correspondante, Najed Benrabah, nous en fait la visite. Voici son reportage.
Le refuge se trouve à Tunja, une ville d'environ 200 000 habitants située à 12 heures de bus ou à une semaine de marche de Cúcuta, la frontière nord de la Colombie. Annie Uribe, la directrice, nous accueille devant la porte d'entrée à quelques mètres de la gare routière de la ville. Comme les gares sont les premiers refuges des Vénézuéliens, Annie voulait s'en rapprocher au maximum.
On travaille avec la police car dans chaque gare routière, il y a un poste. Du coup, dès qu'ils voient des Vénézuéliens, ils les envoient au refuge. Puis, quand les policiers ou les taxis rencontrent des Vénézuéliens sur la route, ils les informent de notre existence et leur disent « Il y a un refuge à quelques mètres de la gare routière. Tu montes juste une rue et tu y es. » Parfois, ce sont même les taxis qui les prennent gratuitement et les amènent jusqu'ici.
Annie Uribe est vénézuélienne. Mariée à un Colombien, cette ancienne avocate de 49 ans vivait au Venezuela. Avant d'être bloquée en 2014 en Colombie, alors qu'elle est en voyage d'affaires, le gouvernement vénézuélien gèle ses avoirs. Elle reconstruira alors sa vie à Tunja avec son mari, où elle créera une fondation culturelle. Mais elle n'oublie pas ses compagnons.
Je suis vénézuélienne. Je
voulais aider parce que je suis vénézuélienne. Ça me fait très mal ce qui se passe dans mon pays. Car j'ai laissé toute ma famille là-bas, ils ont besoin d'aide. Ils ne peuvent pas marcher et quitter le pays. Ils sont trop vieux. Alors chaque fois que je vois arriver un jeune ici, j'imagine que c'est comme si c'était mon frère ou mon neveu. J'ai dit à mon mari, je ne pourrais pas me sentir bien sachant que des enfants dorment dans la rue dans le froid. Ici, les températures descendent jusqu'à 0 degré la nuit. Et la pluie aussi complique tout. Hier, il a plu énormément. On est anxieux quant au nombre de personnes qui arrivera chaque jour. Ils arrivent en marchant, trempés, en état d'hypothermie. Ils sont détruits, non seulement d'un point de vue émotionnel, mais aussi physiquement. J'ai besoin de les aider pour me sentir bien.
De fait, elle a entrepris les recherches d'une maison à louer pour la transformer en refuge. Et finalement, ce sont deux maisons, collées l'une à l'autre, qui accueillent près de 200 Vénézuéliens chaque jour. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le refuge permet de se reposer durant deux jours, c'est-à-dire une nuit en sécurité, dans un lit avec des repas chauds. Des infirmières soignent ceux qui en ont besoin. Enfin, une boutique de vêtements est mise à disposition.
À leur arrivée, on ne leur demande que leur document d'identité, c'est-à-dire leur carte d'identité vénézuélienne. Quand les mineurs ou enfants arrivent seuls, on appelle l'institution de l'enfance Bienestar pour leur confier les mineurs. De cette manière, on s'assure que leurs droits d'enfant sont respectés.
Tenez-vous également un registre ?
Oui, j'ai un registre.
Pour le moment, combien de personnes ont-elles été enregistrées ?
Jusqu'à présent, enfin jusqu'à hier, on a enregistré 5140 personnes, dont 680 enfants.
Une fois l'enregistrement terminé, les migrants vénézuéliens peuvent s'installer dans les 6 dortoirs répartis entre les deux maisons d'un étage.
Eux sont arrivés ce matin. Ils vont se reposer ici jusqu'à demain matin. Dans cette chambre, il y a 10 lits superposés. Mais quand c'est nécessaire, on peut dormir à 5. C'est-à-dire 2 sur le lit du haut et 3 sur le lit du bas. Et on ajoute également des matelas au sol tout au long de ce passage pour pouvoir accueillir le maximum de personnes. On peut faire dormir jusqu'à 80 personnes dans cette pièce. Et parfois, même plus. Certaines nuits sont plus confortables que d'autres. Je crois que celle d'hier a été bonne. Qui était là hier ? Non, je crois qu'ils sont tous partis. Ah, si toi tu étais là. Or, ce n'était pas trop dur hier ?
C'était ma meilleure nuit depuis que je suis arrivé en Colombie.
Ah, merci mon Dieu. Et vous aussi ?
Non, c'est notre premier refuge depuis qu'on a quitté le Venezuela.
Combien de jours avez-vous marché jusqu'ici ?
Trois jours.
Et vous avez fait du stop? Vous avez marché?
En stop, en marchant.
Et vous avez traversé le plateau de Berlin?
Oui, oui.
Vous l'avez passé à pied ou en stop?
En stop.
Donc vous n'avez pas traversé le plateau de nuit?
Non, non.
Ah oui, parce que si vous y restiez la nuit, vous ne pourriez pas survivre.
Vous êtes trop froid.
Ça descend en dessous de zéro. Une famille entière est morte comme ça là-bas.
Parmi les nouveaux arrivants, il y a José Francisco Vega, qui vient de Yaritagua dans l'état de Yaracuy. Il voyage avec sa femme et sa fille de 10 mois.
Je suis parti sans économie, sans argent. J'ai une maison que j'ai laissée vide et j'ai tout quitté. Mais là-bas, il reste ma mère, ma famille. C'est pour cela que je veux aller de l'avant. Je suis parti il y a 2 ou 3 jours, car je pense au futur de ma petite fille.
Qu'est-ce qui a été le plus dur jusqu'à présent?
Les paramos, quand on a traversé les paramos, ce sont les hauts plateaux de la Colombie, il y fait très froid. C'est la partie la plus froide de Colombie. Maintenant, je suis mécanicien. Mon objectif est d'aller en Équateur. J'ai un ami qui pourrait avoir du travail pour moi. Il s'y est installé il y a 1 an. Je dois prendre le risque, on verra bien ce que ça donne. Sinon, n'importe quel travail est le bienvenu. Et en attendant, en arrivant au refuge, on a commencé par vendre des haricots noirs, des caraotes que l'on transporte avec nous, histoire de survivre. On vend donc des caraotes et des plantes. Aujourd'hui, on va se reposer et on reprendra la route demain. On n'a pas de papier pour traverser la frontière. C'est impossible de les faire maintenant. On verra bien si ça passe.
Son compagnon de chambre n'a que 18 ans. Algelil Alvaro Jordena a marché près d'une semaine sans interruption pour rejoindre le refuge. Il reprendra également la route vers l'Équateur. Voyageant seul, il s'est rapproché d'un compatriote sur le chemin.
Que nos ayuda un peu.
Dans ce refuge, ils nous aident, ils nous donnent de quoi nous laver, dormir au chaud, je me sens mieux.
Comment était-ce ailleurs?
On dormait dans la rue, dans un froid de canard, parfois trempé, on se lavait dans la rivière. Je ne savais rien de la vie en Colombie. Eh bien, elle est bien rude, elle n'a rien de facile. Mais je dois poursuivre, je suis déjà trop loin. Ma famille sait que je suis en Colombie, même si je n'ai plus de contact avec eux depuis 5 jours.
Quel est votre projet, une fois en Équateur?
Travailler.
Les hommes sont installés au rez-de-chaussée et les femmes à l'étage, une mesure de sécurité pour tous. Juaneli vient d'arriver et attend de voir l'infirmière. Cette mère de 32 ans a besoin d'un suivi médical.
J'ai une gastro-entérite hémorragique agressive. Elle est grave. Ça pourrait me provoquer un cancer. Je n'avais pas assez de moyens pour m'acheter les médicaments au Venezuela. De plus, il n'y en a pas. Il faut essayer d'en acheter en Colombie. Notre monnaie, le bolivar, s'est tellement dévaluée que ça ne me sert à rien de changer notre argent en pesos colombiens pour acheter les médicaments. Beaucoup de personnes sont en train de mourir à petit feu. Il n'y a plus de médicaments. Je voudrais que quelqu'un de l'extérieur se rende au Venezuela, dans les hôpitaux, pour voir comment les enfants atteints de cancer meurent à petit feu. Il n'y a pas de quoi les soigner. Et les gens n'ont pas les moyens d'acheter les médicaments ici et de les envoyer là-bas. J'ai lutté 1 an à la frontière à Arauca avant de partir. Je n'ai pas voulu partir plus tôt pour mes enfants. Je ne voulais pas les laisser seuls. Je ne voulais pas les quitter car ils ont besoin de moi. Ils sont jeunes. L'une a 11 ans, l'autre a 8 ans et le petit dernier a 6 ans. J'ai laissé ma maison, mon appartement. Je suis une cadre, vous savez. J'ai passé 5 ans à l'université pour rien. J'ai une voiture, mais elle est inutile. Je ne trouve pas de batterie ni les pièces pour la réparer. Mon mari s'est retrouvé au chômage, donc on est obligé de partir. En général, les gens disent qu'on est des mendiants. Non, non, il y a des gens qui vivaient bien là-bas au Venezuela. Mais là, ce n'est plus possible. On est tous poussés vers la sortie. Ça me fait beaucoup de mal et de peine de me retrouver dans cette situation. Je n'aurais jamais cru arriver à ça. Avoir faim, j'ai dormi sous un pont avant-hier. Jamais je n'aurais pensé que moi, Jornelly Pérez, dormirais sous un pont, car je n'ai pas été élevée ainsi. Mais oui, c'est devenu la réalité.
Juaneli envisage de rester quelque temps en Colombie. Si rien ne fonctionne, avec son mari, ils se rendront en Équateur ou au Pérou. Des centaines de kilomètres de marche à pied les attendent encore. Depuis le départ de Barinas au Venezuela jusqu'à Tunja, ils ont déjà fait plus de 800 kilomètres à pied ou en stop.
Yo solamente quiero que la gente escuche y los países escuchen que
Je voudrais seulement que les pays et les gens comprennent une chose. Aujourd'hui, un jour de travail ne nous permet d'acheter qu'un œuf. Ça fait réfléchir. Un jour de travail pour un œuf. Alors comment on pourrait acheter 2 kilos de riz ou 1 kilo de viande? Acheter une conserve de sardines est un luxe.
Comprar allá carne es un lujo, comprar pollo es un lujo. Hasta comprarse una lata de sardina es un lujo.
Demain, Juan Nelly reprendra la route vers Bogota avec tous ses compagnons. En attendant, il se retrouve dans le patio où le repas va être servi. En cuisine, 2 personnes ont préparé un plat typiquement vénézuélien, du riz avec des haricots noirs, le caraoté. Les repas sont possibles grâce aux dons. Annie nous donne les détails.
Estamos en la cocina, en la despensa.
Nous sommes dans la cuisine et le garde-manger. Tous les dons que vous voyez ici, ce sont ceux de la Croix-Rouge internationale et parfois des personnes solidaires, des Colombiens, nous offrent des aliments. Mais le plus gros, les grosses quantités viennent de la Croix-Rouge. Elle nous a fait 2 livraisons de dons alimentaires. La première, c'était en août et la deuxième, là, en octobre. Elle nous a donné environ 400 kilos de farine pour faire des galettes, la célèbre galette vénézuélienne, et 400 kilos de riz, 200 litres d'huile. Tout ça nous permet de tenir 1 mois et demi, 2 mois. Car nous recevons environ 200 personnes, soit 600 plats par jour. Cette semaine a été un peu calme. On n'a pas reçu 200 personnes tous les jours, mais c'est tout de même lourd. On a environ 120-150 personnes par jour. Faites les calculs, ça fait vite 450 repas à servir par jour, sans compter le personnel qui représente 22 personnes.
Es mucha cantidad, son 450 platos de comida en un día, fuera del personal que son 22 personas.
Parmi les employés, il y a Joan Peña. C'est le premier Vénézuélien à être arrivé au refuge le jour de l'ouverture, le 28 juillet dernier. Pour Annie Uribe, ce père de 21 ans représente beaucoup.
Buenas, qué pena molestar.
Joan es el primer caminante que entró al refugio. Ya ese es el hijo de nosotros.
C'est notre fils. Si, c'est notre enfant. Il est toujours au bureau. Il est en charge de la gestion des dons. Il est également agent de sécurité. C'est vraiment comme mon fils. Les 2 personnes qui sont dans cette chambre sont comme mes enfants. Que ce soit Johan ou Isaias qui vient de monter. Isaias est arrivé 2 jours après Johan. Isaias est arrivé dans un combat diabétique, dans un état grave. On a dû l'emmener à l'hôpital. Il est resté 4 jours dans un état de santé grave. Quand il a repris ses forces, il voulait partir car tous ses amis étaient déjà partis. On lui a dit de rester jusqu'à ce qu'il reprenne toutes ses forces. Et il est finalement resté. Lui et Johan sont nos 2 enfants.
Joan Peña vient de la ville de Maracay, dans le département d'Aragua, une ville proche de la capitale Caracas. Il a dû faire 1105 km de marche pour arriver à Tunja, en Colombie.
Ma première réaction, c'était la peur, car la majorité d'entre nous voyage sans papier, sans passeport, juste avec sa carte d'identité. Alors, j'avais peur de demander des informations à la police, mais il le fallait. J'ai pris mon courage à deux mains et je leur ai demandé où je pouvais aller malgré ma crainte d'être expulsé du pays. Mais sinon, les gens sont quand même solidaires. Comme partout, il y a des gens bien et d'autres mauvais. Une fois que j'ai trouvé ce foyer et ce travail, j'ai repris confiance. J'ai commencé à sentir de l'affection pour toutes les personnes qui arrivent ici. Je les aide, je leur sers à manger, car moi aussi j'ai fait le même parcours et je sais ce que cela nous coûte. Marcher des heures, subir le froid, la chaleur, dormir dans la rue, ne pas savoir où tu vas. Car pour nous, chaque rue, chaque ville est quelque chose de nouveau. On sait où on se trouve juste grâce aux panneaux, et on ne sait rien d'autre, ni même à combien de kilomètres se trouve notre maison.
Entonces uno no sabe hacia dónde va, uno nada más conoce dónde está por los carteles y la ubicación. De resto uno no sabe más. Lo único que uno sabe es que está lejos de su casa.
Comme Johan, l'ensemble des employés sont vénézuéliens. Le refuge s'est construit au fur et à mesure en fonction de ce que pouvaient proposer les nouveaux arrivants.
Nosotros tenemos una fundación. Et le personnel qui travaille avec nous travaille seulement pour comida et techo.
Nous gérons une fondation et l'ensemble des gens qui travaillent pour nous dans le refuge le font en échange d'un toit et de nourriture. Ce sont tous des marcheurs, souvent les premiers qui sont arrivés au refuge. Ils sont donc restés travailler avec nous. On a bien sûr choisi les personnes qui ont le sens des responsabilités et de l'engagement. Beaucoup n'avaient nulle part où aller car il y a eu des périodes où les frontières d'Équateur et du Pérou ont été fermées alors que c'était leur destination. On leur a donc proposé de rester jusqu'à l'ouverture des frontières. Puis finalement, ils ont changé leur plan pour rester travailler avec nous. Au total, ce sont 22 personnes, parmi lesquelles deux infirmières, qui sont en charge des soins. Elles sont arrivées comme un cadeau du ciel, au moment où on en avait besoin. On a aussi 9 personnes pour la sécurité, 2 personnes pour gérer le registre, 2 personnes pour la cuisine. Ceux qui s'occupent des dons, du tri des vêtements donnés, de l'accueil des enfants, qui est bien particulier. Chacun tient son poste.
De la dotación de los niños, la atención de los niños es otra cosa. Entonces, a cada uno está en su área.
Pendant que le service du repas se déroule au rez-de-chaussée, l'infirmière Orimar Cardoso est en consultation à l'étage. Cette mère a tout quitté pour subvenir aux besoins de sa petite fille de 3 ans, Sofia, restée au Venezuela. Orimar travaille désormais au refuge en exerçant son métier. Un médecin vient également chaque samedi pour l'aider. Il reste également joignable en semaine pour les cas d'extrême urgence.
Notre travail principal est l'accueil des personnes en détresse respiratoire. On les reçoit, on les soigne, on reste attentif à leur état. S'ils ressentent une gêne, de la fièvre ou sont en état d'hypothermie, on fait en sorte de les soulager. Chaque infirmière a tour de rôle durant ses heures de garde. J'ai eu en consultation des femmes enceintes, des personnes âgées. Il y a quelques jours, une petite d'un mois et demi est morte ici. Elle arrivait du haut plateau. Le froid lui a provoqué un choc respiratoire et elle est morte. On s'est alors occupé des funérailles. Ça reste la situation la plus difficile que nous avons vécue ici. C'est très dur, dur de voir le bébé et ensuite de voir la crémation. Ça nous a tous marqués. Et en plus, on soutenait la mère comme une famille, car on était sa seule famille.
En plus de son travail au refuge, Orimar prépare des arepas vénézuéliennes pour les vendre dans la rue. Ce sont des galettes de farine de maïs fourrées de viande ou de légumes. Ce petit boulot lui permet de mettre de l'argent de côté et l'envoyer au Venezuela.
On n'avait rien là-bas, le salaire ne suffisait pas. Ici, je me sens très bien. Merci à Annie pour son aide. Bien sûr, je me sentirais mieux si ma fille était avec moi, mais je me sens bien car je peux aider ma fille, ma mère et mon frère qui est handicapé. Le plus dur reste le fait d'avoir laissé ma famille. Quand je les appelle, ils me disent « Tu nous manques, ma fille, on t'aime ». C'est dur, c'est le plus dur. En comparaison, le reste, c'est rien. Des fois, je pense à ma fille en soupirant. Oh, ma fille, c'est trop dur, car elle est petite.
Comment réagit votre fille ?
Elle est très éveillée. Elle me dit, quand est-ce que tu viens me chercher ? Moi aussi, je veux aller en Colombie. Je suis fatiguée de Maduro. Je suis fatiguée de Maduro. Je veux venir en Colombie. Je lui dis, je vais venir te chercher. Reste tranquille et occupe-toi de ta grand-mère en attendant que je vienne. Elle me répond, c'est que ma grand-mère ne veut pas partir. Elle trouve des excuses à Maduro. Elle est très marrante. C'est vraiment ce qui me motive. Car ils sont seuls là-bas. Ils sont sous ma responsabilité.
Son frère, âgé de 27 ans, est également malade. Il a une leucémie.
Mon frère doit subir une opération et il ne peut pas, alors qu'il se déplace en fauteuil roulant. Il dit que si on l'opère maintenant, il risque d'y rester, car il n'y a rien pour le soigner. C'est dur. Mais malgré sa situation, il m'aide beaucoup, car ma mère est trop âgée. Alors il sort, il va faire les courses, s'occupe de tout là-bas. Après tout ce que j'ai vécu avec lui, je peux dire que son courage est admirable.
Ce refuge est devenu une deuxième maison vénézuélienne en Colombie. Chaque heure, de nouveaux voyageurs fatigués et détruits toque à sa porte. Alors, Annie Uribe s'active déjà pour ouvrir de nouveaux refuges proches de la frontière nord du pays et celle du sud, notamment au niveau du haut plateau de Berlin et de la ville de Pasto. Cela alors qu'elle peine déjà à payer les loyers de ce refuge. L'une des maisons est assurée jusqu'à janvier par le versement d'un entrepreneur local. Pour l'autre maison, c'est Annie en personne qui finance le tout à hauteur de 400 euros par mois, sans compter les factures. Peu importe les problèmes d'argent, elle cherche des financements car il y a urgence. Un Colombien vient de débuter la même expérience dans le nord du pays où il a ouvert une maison d'accueil. De son côté, les autorités tentent de gérer au cas par cas, comme à Bogota, la capitale, où un campement de tentes a été installé dans le nord de la ville. 44 tentes pour 450 migrants qui étaient installés depuis 2 mois dans la gare routière. Najed Benraba, Tunja, RFI.